Jésus fait route vers Jérusalem. On le voit, il passe de village en village et il guérit. Il enseigne partout où cela est possible. Il parle tantôt avec un langage direct à celui qu'il avait invité, par exemple, au chapitre 14 de Luc, il dit « Quand tu donnes un festin, invite des pauvres. » Il parle également en parabole. La pièce retrouvée, chapitre 15, le fils retrouvé, même chapitre 15, verset 13, l'argent trompeur, chapitre 16, parabole qui enseigne sur le sens de la vie, le royaume, parabole du riche et de Lazare, chapitre 16 également, parabole que nous avons entendue les dimanches précédents. Il invite ses disciples à se mettre à sa suite et il précise l'importance de la miséricorde. Si ton frère vient à t'offenser, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui à chaque fois qu'il t'offense. Les apôtres comprennent tout cet enseignement, mais ils témoignent, et on les comprend, de la difficulté à l'appliquer. Ils ne font pas assez confiance. Leur foi n'est pas assez grande. Le travail qu'ils font est bien fait, utile, mais ils constatent que, sans le Seigneur Jésus, l'essentiel n'est pas atteint. Le disciple demeure un serviteur quelconque, utile, mais non indispensable. Il faut la présence active du Maître. C'était le chapitre 17. La marche vers Jérusalem continue. Du reste, je ne sais pas si vous connaissez la géographie, mais il semble qu'il faille rectifier. Il semble qu'il est plus juste de lire l'évangile de Luc en disant « Il passa à travers la Galilée, la Samarie, vers Jérusalem, du nord au sud ». Juste avant d'entrer dans le village, on ne sait pas lequel, un groupe de 10 lépreux s'approche de lui. Nous constatons dans cet événement que tous respectent la loi. On est hors de la ville, ils se tiennent à distance, et ici Jésus ne les touche pas. Jésus indique seulement qu'ils doivent aller se montrer aux prêtres, lesquels constateront la guérison et pourront ainsi les réintégrer dans la communauté à l'intérieur du village. Un seul revient auprès de Jésus, l'étranger, non soumis à la loi, libre, il reconnaît la gloire de Dieu dans l'acte de Jésus. La première lecture développe ce même dynamisme, un étranger. Pourquoi l'évangéliste et l'Église à sa suite insistent tant sur le fait qu'il s'agisse d'un étranger comme Naaman le Syrien? Je tente d'expliquer. Dimanche dernier, je me trouvais en situation de développer l'importance du repos dans notre vie de chrétien. C'était une conférence à Rouen avec les catéchistes de cette ville. Le repos, osium, loisir, positif, est une nécessité vitale, basique, universelle. Pour inciter à mettre un terme à une activité productrice de richesses matérielles, activité lucrative, le négoce, en latin negocium, non-loisir, négatif. Donc pour essayer d'expliquer tout cela, je parlais de la joie, du plaisir d'abandonner l'acte financier pour entrer dans la louange gratuite. Une invitation à contempler la bonté et la beauté du monde et des personnes, le bonheur de la convivialité où Dieu est présent. Le repos est un temps où se joue à fond l'acte de rendre grâce, de remercier et d'admirer. Une telle exaltation n'est pas possible, à mon avis, dans la contrainte. Mon exposé, en fait, suivait la présentation par un rabbin de l'interdit du travail le jour du sabbat. Il énumérait les quelques 600 règles à suivre pour plaire à Dieu, les 39 travaux interdits le jour du sabbat. Le respect de la loi ainsi présentée pesait sur mes épaules, tous ces interdits, comme une chape de plomb. Et je ne pus, pour garder un dialogue courtois avec le représentant du judaïsme, que maladroitement parler de Jésus libérant radicalement du poids de la loi. Vous le savez, Jésus n'est jamais tendre par rapport aux pharisiens idolâtres, légalolâtres. Je fais le jeu de mots, idolâtre, légalolâtre. En fait, je me suis senti heureux d'appartenir à une assemblée, l'Église, qui place le plaisir de la rencontre pour la louange avant l'obligation de respecter des préceptes. Quoique l'Église, très, trop souvent, se présente ou est perçue sous cet aspect d'imposition. C'est le lot des religions, du reste, de se montrer ou d'être vu sous les catégories du « il faut », « il ne faut pas », « c'est permis », « c'est interdit ». Heureusement, le Christ libère de cette attitude conventionnelle en plaçant en premier lieu l'amour, la mission, le pardon. L'étranger, l'homme libre de toute contrainte vis-à-vis de la Torah, a su reconnaître en Jésus l'auteur de sa guérison. Il rebrousse chemin pour remercier l'unique auteur de son salut. Il se prosterne devant lui. « Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. »